L'entraînement pour vivre une vie stratégique vous présente la série intitulée « Surmonter les blessures de nos vies et découvrir la joie de vivre une vie stratégique » par Dennis Peacock, traduction Meia Corte. Le troisième principe, la troisième vérité à exercer s'intitule « Renoncer à vivre sur la défensive et choisir l'offensive ». C'est une bénédiction d'être avec vous pour ce troisième enseignement dans lequel nous apprenons à surmonter les blessures de notre vie. Pour donner suite à notre partage d'hier, j'aimerais vous demander qui s'est levé tôt ce matin? L'avez-vous fait parce que vous saviez que j'allais poser la question? Ou bien parce que vraiment vous l'avez choisi? Dites-moi honnêtement combien d'entre vous ont mieux vécu ce début de journée? Êtes-vous éveillé? Nous révisons ensemble. Hier, nous avons parlé de nos vies. Nous avons dit que chacun de nous a été blessé ou est blessé. Nous souffrons, et si nous ne savons pas que faire de ces blessures et souffrances, si nous ne les dépassons pas, nous restons de manière certaine coincés là où nous en étions lorsque nous avons été blessés. Nous ne pouvons alors plus rien apprendre. Nous ne pouvons rien apprendre de nouveau en étant complètement renfermés sur nous-mêmes, n'est-ce pas? Quelle que soit la manière dont nous avons été blessés, nous ne sommes alors pas seulement fermés sur nous-mêmes, mais nous sommes aussi dans l'attente que quelques nouveaux coups nous tombent dessus. Nous croyons qu'ils vont continuer à nous blesser. De cette manière, nous blessons nous-mêmes aussi les autres. Nous l'avons dit, les personnes blessées blessent les autres, comme les personnes qui ont été rejetées rejettent plus ou moins ouvertement les autres. Combien d'entre vous ont déjà été blessés par d'autres qui avaient été eux-mêmes blessés de manière évidente? Combien d'entre vous ont blessé d'autres ayant été blessés eux-mêmes? Non seulement sommes-nous alors incapables de continuer à apprendre à vivre bien, mais à partir de là, nous vivons une vie sur la défensive plutôt que sur l'offensive. En d'autres mots, nous traversons notre journée nous protégeant de toutes parts de nouvelles blessures éventuelles, au lieu d'avancer bravement pour conquérir et achever de nouvelles choses. Les personnes blessées ont la tendance à être très peu productives et elles sont le plus souvent peu stratégiques. On est incapable d'être sur l'offensive lorsqu'on a été blessé. Sauf si nous avons appris comment gérer cette blessure et comment régler cette question. Mais il y a plus important encore. Dieu ne veut pas que nous restions sur la défensive. Pourquoi? La réponse est très simple. Dieu ne vit pas sur la défensive lui-même. Et notre Père Céleste veut que nous vivions notre vie de tous les jours de la même manière qu'il vit sa vie. En d'autres mots, il veut que nous héritions son cœur. Nous nous souvenons de ce que nous avons dit hier. Nous ne sommes pas sauvés pour aller au ciel. Entre parenthèses, je sais que j'ai dérangé certains d'entre vous en disant une chose pareille, parce que j'ai aussi sous-entendu que vous n'aurez probablement jamais des ailes. Je peux de même certifier que la plupart d'entre vous n'allez jamais avoir une auréole. Vous avez quelque chose de beaucoup mieux qu'une auréole ou des ailes. Vous avez reçu ce que l'Éternel Dieu promet, c'est la vie éternelle. La vie éternelle ne dépend pas de la longueur de votre vie sur terre. Elle a trait à la qualité de votre vie ici sur terre, aujourd'hui et éternellement. Laissez-moi vous poser une question. Croyez-vous que les gens qui sont en enfer sont particulièrement heureux d'avoir la vie éternelle? Pour ma part, je ne le pense pas. Qui veut vivre éternellement sans avoir une vie de qualité? Laissez-moi vous dire quelque chose d'autre qui n'est pas particulièrement agréable à entendre. Je sais que vous êtes choqués de m'entendre dire ces choses. Je crois que beaucoup de croyants se réjouissent tellement de la seconde venue de Christ parce qu'ils ne sont pas heureux ici sur terre. Je ne crois pas qu'ils se réjouissent particulièrement d'aller au ciel, mais ils se réjouissent de partir parce qu'ils sont découragés, fatigués, frustré sur Terre. Il s'ennuie. Je crois que, humainement parlant bien sûr, Jésus-Christ a été crucifié parce qu'il était trop en vie, trop plein de vie. Il était complètement dégagé de tous les complots de la vie. Sa vie a été un affront pour tous les autres systèmes du monde. Il ne pouvait pas être contrôlé. Personne ne pouvait l'utiliser. Il ne pouvait pas être acheté. Il ne pouvait pas être séduit. Personne ne pouvait le manipuler. Il était juste sans être prude. Il était pur, cependant ses amis étaient des pécheurs. Bien sûr qu'il faut se débarrasser de quelqu'un qui est aussi libre que cela. Le but de notre Dieu et Père, c'est que nous vivions de cette manière-là sur terre, nous aussi. Nous devons apprendre à pratiquer ces principes, ces vérités. Chaque jour, nous devons choisir d'être et de vivre éveillés. À moins d'être éveillés, de marcher dans l'esprit, nous sommes endormis. Et en restant endormis, nous ne pouvons pas voir. Nous avons bien des yeux, mais qui ne voient pas. Nous avons bien des oreilles, mais qui n'entendent pas. Nous sommes coincés dans le passé, comme prisonniers du passé, car nous n'avons pas pu le dépasser. Ou bien encore, sommes-nous coincés dans notre futur parce que fuyant de l'avant au lieu de marcher dans l'aujourd'hui de la vie avec Dieu. Car Dieu vit lui-même dans le maintenant. Il est conscient du passé, il est conscient du futur, il vit dans l'aujourd'hui, dans le maintenant. Entre parenthèses, ça c'est vraiment profond. Tu ne peux l'entendre ni le comprendre si tu n'es pas dans l'esprit. Nous avons donc dit que nos blessures nous gardent prisonniers dans notre passé et que de ce fait, nous projetons nos peurs dans l'avenir. Pourquoi avons-nous peur de notre avenir? Nous craignons de revivre les mêmes blessures que par le passé. Ainsi, nous ne sommes jamais vraiment libres avec les autres. La meilleure relation que nous ayons, que nous cultivons, est celle avec nos peurs. Nous sommes incapables d'avoir une bonne relation avec les personnes autour de nous. J'aimerais tellement pouvoir dire que nous, enfants de Dieu, sommes différents. Mais je ne peux pas dire cela pour le moment. Nous avons le pouvoir d'être différents, mais pour le moment, nous n'utilisons pas ce pouvoir-là. Et les non-croyants voient que nous ne sommes pas différents d'eux. Nous voyons par exemple leur lien avec le péché, eux voient notre lien avec la religiosité. Un exemple, je me souviens du temps où j'étais étudiant à Berkeley. Je me souviens de ce que des chrétiens me disaient en rendant témoignage. Je n'étais pas encore croyant alors. Je leur disais, si je reçois Jésus-Christ, est-ce que je vais devenir comme toi? Si oui, non merci, je ne désire pas ce que tu veux me donner. C'est triste, n'est-ce pas? Cependant, Dieu demeure avec nous dans toutes les circonstances de notre vie, tous les jours. Ceci signifie que nous devons faire des choix divins pour connaître notre destinée. Alors la question suivante se pose. Combien de choses vois-tu Dieu faire et veut-il faire avec et par ta vie, avec toi et par ta vie? Les as-tu déjà accomplis? Lesquelles as-tu reçues de la part de Dieu aujourd'hui? Il est probable que beaucoup ne savent pas vraiment ce que Dieu leur a dit aujourd'hui. Il est probable que plusieurs n'ont pas vu ce qu'il a fait aujourd'hui. Jésus a dit, « Je fais ce que je vois faire au Père. Je ne fais que ce que je vois faire au Père. Et je ne dis que ce que je l'entends dire. » Ça, c'est la vie à laquelle Dieu nous appelle. Vous ne devez pas d'abord mourir sur terre pour pouvoir ensuite un jour aller au ciel pour vivre enfin éternellement. Il est possible de vivre avec Dieu et pour Dieu aujourd'hui, comme le Christ a vécu. C'est possible et pour ce faire, vous devez vous entraîner et le chercher de tout votre cœur. Vous devez être ou devenir un disciple. Le problème que nous avons dans le corps de Christ, c'est que nous avons des milliers de personnes sauvées et cependant, nous avons très peu de disciples. Nous avons reçu le commandement de sortir, d'aller faire des disciples. Mais pour faire un disciple, vous devez être vous-même un disciple. Savez-vous ce qu'est un disciple? C'est un apprenti, un étudiant discipliné. La plupart des chrétiens aujourd'hui ne sont pas des apprentis disciplinés. Nous, les pasteurs et enseignants, avons une grande responsabilité dans le corps de Christ. Nous pouvons dire que le peuple de Dieu ne va pas plus loin que les enseignants du peuple. Trop souvent, au lieu d'apprendre aux membres de la communauté à vivre une vie de disciple, on leur enseigne des versets bibliques et des concepts bibliques. Entre parenthèses, si maintenant je me trouvais ici à une conférence de pasteurs, nous attaquerions ce problème. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Reconnaissons cependant que nous sommes tous, chacun pour soi, responsables de notre marche avec Dieu. Lisons ensemble Éphésiens 1, 11. Dans notre union avec le Christ, nous avons reçu notre part au salut, car Dieu nous avait choisis par avance, selon son plan. Et Dieu fait toutes choses conformément à ce qu'il a décidé et a voulu lui-même. Toutes choses dans la vie sont en relation avec la volonté de Dieu. Cherchons encore quelques autres références bibliques. Nous lisons dans Matthieu 10, verset 30. Quant à vous, même vos cheveux sont comptés. Même les cheveux de notre tête sont comptés. Je sais que pour certains c'est un peu plus facile. Je sais pourquoi certains sont chauves. C'est parce que Dieu a aussi parfois besoin d'un moment de repos. Non. Donc Dieu sait le nombre de cheveux qu'il y a sur notre tête. D'accord? Lisons encore Matthieu 6, 26. C'est un verset intéressant, particulier pour ceux qui défendent les droits des animaux. Regarde les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent pas de récolte dans les greniers. Mais votre Père qui est au ciel les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que ces oiseaux? S'il y a des personnes qui doutent que Dieu aime les hommes et les personnes plus que les animaux, voilà un verset que vous pouvez leur proposer. Jésus dit lui-même que nous avons plus de valeur que les oiseaux. Est-ce une révélation pour quelques-uns d'entre vous ici? J'espère que non. J'espère que vous saviez cela. Et pourtant, j'aime les oiseaux. Lisons encore ensemble le verset 8 de Hébreux 5. Bien qu'il fût fils, le fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. En d'autres mots, nous pouvons dire que Jésus est le disciple du Père. Et il nous appelle les uns et les autres à être ses disciples. Jésus n'est pas né avec une connaissance complète dans son humanité. Car il était pleinement homme, il a donc dû apprendre les choses de la vie, alors qu'il était le fils. Bien que fils, il a appris l'obéissance. Si nous voulons parler de manière humaine, nous pouvons dire qu'il n'a jamais péché. Sa connaissance a grandi, les révélations ont grandi en lui. Il était un apprenti dans la vie, tout en n'ayant jamais péché. J'aimerais te poser les questions suivantes. Jusqu'à quel point es-tu réellement un apprenti étudiant dans ta vie? Un apprenti qui pratique la vérité ou qui cherche à pratiquer la vérité afin d'apprendre chaque jour quelque chose de nouveau? Si tu n'es pas éveillé, tu n'apprends rien. Si tu es endormi, tu vas refaire les mêmes erreurs jour après jour et tu vas tourner en rond. Pour pouvoir sortir de ce cercle vicieux, pourrait-on dire, tu vas devoir t'éveiller. Il va falloir que tu commences à poser les bonnes questions. Par exemple, qu'est-ce que je fais de faux? Quelle loi est-ce que je brise? Qu'est-ce que je dois faire pour changer? Quelle vérité veux-tu que je pratique, Seigneur, aujourd'hui? Comme nous l'avons dit dans la dernière leçon, ne laissons pas notre quotient intellectuel tomber tout à coup à zéro. Souvent quand Dieu nous dit une vérité, on se dit « ça, c'était bon ». On est venu, par exemple, pour enseigner des gars hyper intelligents et les voit stupides en ressortant. Pourquoi? Nous ne voulons pas écouter ni entendre, parce qu'alors, si nous entendons et voyons réellement, nous devons obéir. Jésus dit, Ésaïe a bien prophétisé parlant de cette époque. Il disait « ils me connaissent avec leurs lèvres, mais dans leur cœur, ils sont loin de moi. Que cela ne soit pas la vérité pour nous aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui disent « Jésus, je t'aime ». Et au moment où Jésus commence à leur parler, ils deviennent sourds, aveugles et muets. Alors, quels principes voulons-nous apprendre et pratiquer aujourd'hui? Je veux croire que Dieu agit dans ma vie constamment. Je crois qu'il veut utiliser chaque situation et chaque circonstance pour me faire grandir. Sans cela, je vais passer à côté de la cible que Dieu a pour moi, pour ma destinée. Comment puis-je exercer ces vérités, ces principes, en les confessant jour après jour? Premièrement. Deuxièmement, en cherchant à connaître les choix souverains de Dieu pour moi, en écoutant sa voix et en le reconnaissant dans les circonstances et les situations que je vis jour après jour. Troisièmement, en restant debout, en résistant fermement dans le stress des situations difficiles. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça signifie que lorsque quelque chose me blesse, ou quelqu'un me blesse, je prends du recul, je reprends souffle, je prie Dieu qu'il me donne de savoir comment agir, entre parenthèses et non pas réagir, dans cette situation. Si je prends du recul au moment où je suis blessée, je vais dire moins de choses stupides. Lorsque quelqu'un me dit quelque chose de blessant, si intérieurement je ne prends pas mes distances, je risque bien de répondre et de réagir en disant aussi quelque chose de blessant. C'est ainsi que l'on entre dans un match de destruction. Nous devons apprendre à nous distancer intérieurement lorsque nous confrontons des situations ou des personnes qui nous blessent. Le secret de la joie dans la marche avec Dieu se trouve dans le fait que nous reconnaissons que toutes les décisions de Dieu sont justes, elles sont celles du souverain avec lequel nous travaillons. Dieu est un penseur stratégique. Plus nous sommes proches de Dieu, plus nous pensons comme lui. Comment puis-je reconnaître quelqu'un qui est proche de Dieu? Dites-moi, à sa manière de parler, parce que j'entends comme Dieu se révèle tellement il est proche. Dieu n'a pas commencé à créer la terre avant de savoir exactement comment toutes les choses allaient être constituées les unes par rapport aux autres. Beaucoup de personnes pensent qu'une pensée stratégique, c'est savoir ce qui se passe dans les 5 prochaines minutes. Dieu regarde dans le futur à des milliers d'années. Il commence sa construction en regardant à la fin. Oui, c'est seulement alors qu'il commence. Construire de manière stratégique, donc, c'est savoir quel but vous voulez atteindre et ce que vous devez entreprendre pour pouvoir l'atteindre. Lorsque nous commençons à être en communion avec Dieu à ce niveau-là, il commence à nous parler au sujet de notre destinée. Alors nous pouvons commencer à comprendre, à voir comment aujourd'hui déjà il agit dans notre vie. Et ce qui nous semble être un accident devient tout à coup compréhensible. On réalise que c'est ce que Dieu avait prévu dans notre destinée, dans cette journée. On commence à comprendre la pensée de Dieu. Ceci est la manière de penser d'un disciple, parce que le disciple croit que le Père connaît même le nombre de cheveux qui se trouvent sur sa tête. Il sait donc que ce que le Père ne permet pas, ne peut pas lui arriver. Je me pose alors la question, combien d'entre vous marchent dans cette réalité-là? Pour ma part, j'aspire à vivre dans cette réalité toute la journée, afin de vivre même la plus petite expérience de ma journée, en sachant qu'elle a été prévue par Dieu pour que j'apprenne quelque chose. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, honnêtement, la plupart de ma journée, je la vis dans cet esprit-là. Je ne me considère pas du tout comme un super saint, mais seulement comme un débutant. Dieu se préoccupe réellement de savoir comment tu es, ce que tu vas être, ce que tu vas vivre d'ici 10 000 ans. La plupart d'entre vous pensent seulement à la minute qui suit ou à demain. Mais sa perspective fait toute la différence. Nos vies sont comme des tapis. Nous voyons le dos du tapis, ça fait un peu fouillis. Mais Dieu voit l'autre côté. Sur le bon côté, c'est un dessin extraordinaire. Alors j'aimerais vous dire, Dieu a déjà travaillé dans votre vie bien avant que vous soyez sauvés. Quand je regarde aujourd'hui à ma vie passée, je peux le voir de manière absolument claire. Je ne pourrais pas faire ce que je fais aujourd'hui si Dieu n'avait pas travaillé dans ma vie bien avant que je ne sois sauvée. Oui, notre vie est une histoire. Chaque chapitre a une raison particulière d'être. Je me demande dans quelle mesure vous comprenez cela. Esprit Saint, aide-nous à comprendre cela. C'est encore bien plus important que les notes que nous prenons. Pour ceux qui écoutent cette cassette et qui sont en train de conduire un véhicule, arrêtez la cassette et priez l'Esprit Saint qu'il vous donne la compréhension de ce qu'il veut vous dire maintenant. Si vous recevez ce que je partage ici uniquement comme un enseignement, alors vous ratez votre rendez-vous avec Dieu. Parce que la vraie question est la suivante. Est-ce que tu crois réellement que le Père construit, bâtit ta vie jour après jour? Ne me dis pas qu'il le fait parce que tu sais que c'est la bonne réponse. Si tu n'y travailles pas vraiment, si tu ne travailles pas à être toi-même éveillé jour après jour, tu ne me dis pas la vérité. Mais si tu crois que Dieu agit réellement dans tous les détails de ta vie, jour après jour, tu vas vouloir être éveillé. Tu ne veux pas rater la rencontre journalière avec Dieu. Le plus grand ennemi pour être réellement éveillé est le suivant. Tu ne crois pas que Dieu t'aime vraiment assez pour s'investir autant dans ta vie. Ce n'est pas un problème théologique, c'est un problème émotionnel. Tu ne crois pas que tu es digne de l'attention et de l'amour de Dieu. À ce sujet, je vais te défier. Si Dieu connaît le nombre de cheveux qu'il y a sur ta tête, jusqu'à quel point crois-tu qu'il est prêt à s'investir dans ta vie? Parlons un peu de la vie. Disons d'abord que Dieu n'est pas un Dieu injuste. Quelques-uns disent, Dieu n'est pas juste parce qu'il permet des souffrances. Si Dieu t'aimait vraiment, il n'aurait jamais permis ces choses-là. Laisse-moi te poser une question. La croix, est-ce que c'était quelque chose entre guillemets de juste pour Jésus? Qu'est-ce qu'il avait fait pour mériter la mort sur la croix? S'il y avait quelqu'un au monde qui ne méritait pas la croix, c'était bien Jésus-Christ. Moi, je mérite la croix. Et toi, tu mérites la croix. Mais lui ne la méritait pas. La vie n'est donc pas faire, n'est pas juste. Dieu ne cherche pas à être vu comme quelqu'un de fair-play, de juste, dans ce sens-là. Mais il cherche la maturité de ses enfants. Combien d'entre vous ont déjà vu des choses qui n'étaient pas vraiment justes ou fair-play? Qui d'entre nous est encore prisonnier aujourd'hui dans une situation où il dit « Mais si Dieu m'aimait vraiment, il n'aurait pas permis cela. » Si tu es prisonnier dans cette situation, tu dois changer. Tu as besoin de transformation parce que ta manière de penser est fausse. Je te dis que tu n'es pas le produit de la matière et du hasard, non seulement parce que cela n'est pas vrai, mais tu dois savoir que cette manière de penser-là détruit complètement la dignité de l'être humain. Elle est inadmissible pour Dieu et pour nous. À toutes les personnes qui me parlent de la théorie de l'évolution et qui y ajoutent foi, je rétorque « Alors, tu serais une masse de matière debout, le produit d'une probabilité mathématique? Ton père et ta mère auraient été des masses de boue, de terre? » Si tu étais une masse de boue, tu ne serais rien de plus qu'un marécage. Nous nous posons des questions. Par exemple, comment des nations entières peuvent-elles imploser? Comment espérez-vous faire reconnaître que des nations entières ont de la valeur, soient dignes, si chacun des individus qui en fait partie croit qu'il n'est que le fruit du temps, de la matière et du hasard? Donc, une part de marécage. Ces cassettes vont être vendues en Europe, et en particulier dans les pays francophones. J'ai aussi, pour ma part, des racines européennes. J'aimerais vous dire, la doctrine de l'évolution était une pensée colonialiste qui présupposait que la race européenne était supérieure aux autres races. Entre parenthèses, si vous voulez faire une étude intéressante, étudiez la vie de ceux qui ont financé les études de Charles Darwin. J'ai vu le livre de Darwin. Il est dans un musée britannique. personne ne nous donne le titre réel, le titre complet de ce livre. Le premier titre donné est le suivant, entre guillemets, « Origine des races », sur la préservation des races supérieures dans la bataille de la vie. Fermez les guillemets. En fait, ce qui a motivé l'écriture de ce livre, c'est la volonté de justifier le colonialisme. Réalisez-vous cela? Personne ne veut en parler. Moi, je veux bien en parler, mais les gens ne veulent pas en parler. Le plus souvent, ils ne savent même pas ce qui a motivé Darwin à écrire ce qu'il a écrit. C'est l'axe central de l'éducation occidentale. Nous devons nous souvenir que cette pensée a été très largement répandue en Occident. Elle est devenue le fondement de toutes les universités d'État occidentales. Quelle est la question que l'on n'a pas vraiment le droit d'exprimer pendant les études universitaires? La pensée de l'existence d'un Dieu personnel, vivant, souverain, saint, qui a fait l'histoire et qui fait l'histoire selon sa volonté. On n'a pas le droit d'en parler, parce que la présupposition courante encore aujourd'hui est la suivante. Nous sommes le produit de la matière, du temps et du hasard. J'aimerais ajouter encore une chose. Je désire avoir la qualité de foi que les vrais évolutionnistes ont, car lorsqu'ils parlent du chaînon manquant, ils croient en quelque chose qui n'existe pas pour pouvoir rejeter les décisions de Dieu dans leur vie. Cela signifie mettre la faute sur Dieu. Je ne veux pas dire que tout ce qui nous arrive est la volonté parfaite de Dieu. Un grand nombre de choses qui nous arrivent sont le fruit, le résultat de notre désobéissance. C'est le fruit de ce que nous avons semé. C'est le fruit de notre péché ou du péché de quelqu'un d'autre contre nous. Ce n'est pas du tout la volonté parfaite de Dieu. Par contre, la volonté parfaite de Dieu, c'est que, quoi que ce soit qui nous arrive, même si c'est un péché, nous puissions le transformer en quelque chose qui apporte la vie. Un exemple, Joseph a dit, « Ce que l'ennemi a voulu pour me détruire, qui était méchant, Dieu l'a transformé en une bénédiction dans ma vie. » Dieu est capable de transformer des choses terribles, méchantes et mauvaises dans notre vie en bénédiction. Je le sais et je le crois. Il y a une différence entre savoir une chose et en être profondément persuadé. Le mouvement appelé de l'estime de soi est un exercice futile. Si tu n'es pas digne d'être accepté, si tu n'es que le fruit de la matière, du temps et du hasard, pourquoi t'inquiéter de savoir comment les gens, les autres, t'estiment? Peux-tu me le dire? Quand tu te tiens devant le miroir et que tu te dis « Moi, je suis bon, assez bon, assez intelligent. Au fond, les gens devraient m'aimer. » Tu es complètement insensé. Pourquoi t'écoutes-tu parler? Dans notre déchéance, le thème essentiel n'est pas « Est-ce que nous nous acceptons ?» Mais la question est la suivante. « Est-ce que Dieu m'accepte ?» Je crois que quelques-uns ici et ailleurs ont un problème profond avec Dieu. Lui dit qu'il t'accepte, et toi tu lui dis qu'il ne devrait pas t'accepter. C'est une pensée très répandue. Pourquoi? Parce que nous ne croyons pas ce que Dieu a dit. Tu te dis peut-être, « Oh, mais Dieu ne connaît pas certaines parties de moi vraiment mauvaises. » Parce que s'il me connaissait mieux, il n'accepterait certainement pas cela, s'il savait. Il ne m'accepterait pas. Au fond, sais-tu ce que tu exprimes ainsi? Tu penses et tu prétends être plus intelligent que Dieu. Tu dis au fond, je me connais mieux que Dieu ne me connaît. Je ne suis pas digne d'être accepté. Certains d'entre vous ici même se battent jour après jour, peut-être même heure après heure avec cette question. Est-ce que je suis vraiment digne d'être accepté? Remarquez que je ne dis pas, est-ce que tu es sauvé? Non, tu sais que tu es sauvé, si tu es sauvé ou non. Mais est-ce que tu sais si tu es accepté à 100%? Ce sont deux choses très différentes et complémentaires, bien sûr. Jésus t'a sauvé, vous a sauvé. Cela est sa volonté, c'est ce qu'il a fait. Permettez-moi une parenthèse. Je dois vous dire que vous l'irritez, qu'il ne vous aime pas vraiment, la preuve. S'il vous aimait vraiment, nous vivrions dans une culture chauviniste. S'il t'aimait vraiment, il aurait fait de toi un homme. S'il t'aimait, il t'aurait fait plus belle. S'il t'aimait vraiment, il t'aurait rendu plus grand, plus intelligent. Il t'aurait donné des cheveux bruns plutôt que blonds ou quoi que ce soit d'autre. Nous faisons une liste de choses que nous n'aimons pas en nous, en nous-mêmes. Et nous disons, mais au fond, si Dieu m'aimait vraiment, il m'aurait fait différente. Combien d'excuses utilisez-vous pour expliquer pour quelle raison Dieu ne t'aimerait pas, ne vous aimerait pas? Quelques-uns d'entre vous ont vécu toute leur vie, jusqu'à aujourd'hui, sujet au rejet de vous-même. Vous entreprenez toutes les relations humaines en vous attendant déjà à être rejeté. Vous êtes convaincu que vous allez être rejeté parce que vous croyez au fond de vous-même que c'est normal, puisque vous vous rejetez vous-même, ou puisque quelqu'un qui avait beaucoup d'importance à vos yeux vous a rejeté. Peut-être s'agit-il de parents, peut-être un frère, peut-être un cousin, un oncle a abusé de vous. Il y a tant de choses négatives que nous avons vécues. Le but de l'ennemi avec ces choses négatives, c'est que vous vous rejetiez vous-même, que vous vous jugiez indigne d'être accueilli et aimé par Dieu. J'ai un remède à vous donner, à utiliser lorsque ces pensées négatives viennent. Êtes-vous prêt à recevoir ce remède? Je vous garantis qu'il marche. Êtes-vous prêt? Dites à l'ennemi, va en enfer. Vois-tu, peut-être es-tu trop gentil. Ceci est un des problèmes que je vois dans l'Église en général. Nous sommes plus gentils que Jésus. Combien d'entre vous ont déjà rencontré des chrétiens qui sont plus gentils que Jésus? Ils ne sauraient même pas dire ou exprimer ce qu'ils pensent lorsqu'ils marchent dans une sur la route. Si je parle ainsi, c'est parce que je veux chasser tout esprit religieux d'ici. Parce que la religiosité, c'est l'ennemi de Dieu. Sauf s'il s'agit de la religion selon la Bible. Chaque fois que tu as une pensée qui défie ta dignité, tu dois la chasser et l'envoyer en enfer. Chaque fois. Je ne dis pas gentiment, « Allez, va-t'en, mauvaise pensée. Oh, tu es méchante, 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 je te chasse au nom de Jésus. » Ceci n'est pas de l'autorité spirituelle. Elle ne suffirait pas à renvoyer une souris dans son trou. Si tu parles aussi gentiment, crois-tu que cela va avoir un effet sur l'ennemi? Va-t'en, tu me fais mal. Ou je ne t'aime pas. Tu me dis des choses méchantes sur moi. Je ne veux pas t'écouter. Ça ne marche pas. Cela soulève une autre question intéressante. Est-ce que tu veux vraiment que l'ennemi te laisse en paix? Qu'y a-t-il en nous qui veut rester dans la défaite? Écoutez, ceci est une question réellement importante. Je ne la dis pas pour rire. Avec elle, nous revenons à la question que nous avons partagée hier soir en disant « Pourquoi est-ce que nous choisissons la mort plutôt que la vie ?» Ou on peut dire aussi « Pourquoi ai-je peur de remporter la victoire ? Peur d'avoir du succès ?» Laisse-moi te dire quelque chose, simplement. Ne sois pas offensé. Lorsque j'ai commencé à pratiquer la relation d'aide dans mon ministère il y a de longues années, j'ai découvert que beaucoup de femmes ont un surplus de poids parce qu'elles ont peur de vivre leur sexualité. Elles semblent effrayées à la pensée de leur propre réaction possible face à la pression, à la tentation sexuelle. J'ai commencé à comprendre que l'on joue avec soi pour rester hors de la tentation. Un des jeux que nous jouons souvent, jeu qui nous éloigne de la victoire et du succès, c'est que nous acceptons l'accusation contre nous. Aussi longtemps que tu joues à ce jeu-là, tu ne dois pas aller sur le terrain et passer le test du succès. Tu raterais. À cause de cela, tu te caches derrière certains péchés. Tu as peur de l'échec. Pour ma part, je ne veux pas l'échec, mais je n'ai pas peur d'échouer. Sais-tu pourquoi? Parce que l'échec doit aller en enfer, c'est son lieu. Et la peur de l'échec doit aussi aller en enfer. Combien d'entre vous savent que Dieu n'a pas peur de l'échec? Il n'a pas la moindre peur de l'échec. L'échec et la peur de l'échec n'ont aucun droit sur notre vie d'enfant de Dieu. Tout ce qui te fait peur de l'échec doit aller en enfer. Une des choses qui m'étonne avec la religiosité, c'est de réaliser combien elle est couarde. Je me souviens quand j'ai réalisé cela pour la première fois au début des années 70. Je parlais avec un jeune homme qui venait de se marier. Nous avons abordé la question d'un péché familial, c'est-à-dire qu'il se répétait dans sa famille depuis des années, des générations. Il connaissait ce péché. Il le voyait au sein de sa famille. Il savait même comment agir par rapport à ce péché, mais il n'était pas réellement motivé pour agir en conséquence. Je désirais lui donner une baffe pour lui dire « Mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Est-ce que tu vas permettre que l'ennemi déchire ta femme, tes enfants? Tu sais ce qui se passe et tu ne bouges pas. Est-ce que tu peux supposer que Jésus a une relation comme ça avec ce péché ?» La réponse de Jésus à ce péché, c'est « Il s'est donné en mourant sur la croix ». Oui, c'est ça la réponse au péché. Mais la religiosité a fait de nous des pacifistes par rapport à l'ennemi. Vous souriez ou riez lorsque je vous dis de dire à l'ennemi « Va en enfer ». Savez-vous pourquoi? Parce que vous, vous avez peur d'être aussi vrai avec lui. Vous avez probablement peur qu'il vous poursuive. Ce n'est pas mon attitude personnelle, car je sais que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Jésus a dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Il a aussi dit que les violents le saisissent aujourd'hui. Nous ne pouvons souvent pas annoncer l'évangile du royaume de Dieu parce que nous ne produisons pas vraiment des gens violents. Actuellement, nous produisons de gentils chrétiens qui vivent en paix, même en paix avec l'ennemi. Dans quelle mesure as-tu fait ou trouvé des arrangements pour vivre en paix avec l'ennemi? Pour ma part, je ne veux faire aucun arrangement de paix avec les ennemis de mon Père. Nous appelons Jésus-Christ le Prince de paix. Savez-vous que le mot « paix » en hébreu « shalom » signifie littéralement « avoir le pied sur la gorge de son ennemi » Contrôle cela. Cherche dans ton dictionnaire grec et hébreu. Cherche aussi tout ce que tu peux comprendre avec ce mot-là. Il signifie même que tu peux, que vous pouvez manger paisiblement dans la présence de votre ennemi. La paix, c'est vivre dans la présence de l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant, même au milieu de la bataille. Combien d'arrangements de paix avez-vous fait avec l'ennemi de votre âme? Certains me diront peut-être, « Oh, Denis, pour toi c'est simple, parce que tu as un caractère plus agressif. Avec ta personnalité, il est normal d'agir comme ça. » Non, ce n'est pas parce que je suis agressif, mais je déteste l'ennemi, parce qu'il détruit les hommes. Si vous aimez les gens, comment pouvez-vous ne pas détester celui qui les détruit? Ne me donnez pas de gentilles petites réponses chrétiennes. Jusqu'à quel point détestez-vous celui qui veut détruire vos enfants ou vos futurs enfants? Peux-tu me dire que si quelqu'un venait en pleine nuit avec un couteau pour couper tes enfants en petits morceaux, tu lui dirais simplement « S'il te plaît, au nom de Jésus, va-t'en, va-t'en ». Ce n'est pas ce que je dirais. Combien d'arrangements de paix as-tu fait avec l'ennemi? Tu fais un arrangement de paix avec l'ennemi lorsque tu décides que tu n'es pas assez digne de vivre. Entends-tu? Que tu ne mérites pas de vivre une vie bonne, une vie qui se laisse transformer par Dieu? Pour finir, la vie ressemble à un exercice de gymnastique ou un exercice dans un centre de fitness. Tu dois faire tous les jours tes exercices. Alors la question est la suivante. Fais-tu des progrès dans tes exercices? Quel est le fruit de ton travail, de ton exercice d'aujourd'hui? Quel est le profit que tu tires de tes exercices d'aujourd'hui? Est-ce que tu as appris quelque chose dans ces exercices? As-tu vu Dieu travailler dans ta vie aujourd'hui? Et si tu as vu aujourd'hui comment Dieu travaillait dans ta vie, As-tu continué à travailler, à faire ces exercices avec encore plus d'énergie parce que tu savais qu'il est avec toi? Comment se fait-il que lorsque vous faites un entraînement sportif, il vous semble qu'à la fin, vous ayez plus d'énergie qu'au début? Vous êtes-vous déjà posé la question? Vous n'êtes pas plus fatigué, plus faible après, mais plutôt plein d'énergie. Est-ce que je peux vous suggérer une réponse? Je crois que cela signifie que vous avez eu de la joie, du plaisir à faire cet entraînement. Cela vous a fortifié. Beaucoup d'entre vous êtes fatigués ce soir. Non seulement parce que vous avez travaillé aujourd'hui, mais aussi parce que vous avez peut-être résisté aux entraînements que Dieu voulait permettre dans votre vie, au lieu de vous en réjouir. Lorsque vous résistez à un entraînement que Dieu a prévu, vous vous fatiguez doublement. Dieu a donné un entraînement à chacun de nous ici. Ce serait super si nous avions maintenant quelques heures devant nous pour nous dire les uns aux autres quel entraînement Dieu a permis dans notre vie aujourd'hui. À la fin de cette journée, quel en est le profit pour toi? As-tu résisté à l'entraînement que Dieu avait prévu pour toi? L'as-tu fait consciencieusement, avec enthousiasme? Est-ce que tu as appris quelque chose? Est-ce que tu as demandé à quelqu'un d'autre comment tu pouvais faire ce que tu fais d'une meilleure manière? Est-ce qu'une ou l'autre des paroles de Dieu concernait ton exercice? Ou bien t'es-tu complètement endormi? As-tu fait tes exercices en étant furieux, irrité, en te réjouissant que cet entraînement prenne fin? Si cela s'est passé ainsi pour toi et pour beaucoup d'autres, il n'est pas étonnant que tu n'aimes pas la vie. Que les chrétiens qui vivent les entraînements que Dieu a prévus pour eux n'aiment pas la vie. Il n'est pas non plus étonnant que nous espérions le retour de Christ pour qu'il nous sorte de cette salle d'entraînement, puisque nous sommes fatigués et n'en profitons pas du tout. Est-ce que vous croyez que ça, c'est la volonté du Père au ciel? Est-ce que vous croyez vraiment que Dieu, ce Dieu qui vous aime, qui vous a donné la vie, permettrait que vous ayez des exercices à faire sans jamais éprouver la moindre joie? Ceci n'est pas selon le caractère de Dieu. Jésus nous dit qu'il est venu afin que nous ayons la vie en abondance. Chaque mardi, je sors mon deuxième signet et je lis « Je reconnais sa souveraineté. Je reconnais la souveraineté de Dieu dans toute ma vie, tout au long du jour. » Alors lorsque je reçois par exemple un téléphone, j'écoute Dieu en même temps en lui disant intérieurement « Ok Seigneur, qu'est-ce que c'est que ce téléphone ?» Ou bien lorsque quelqu'un vient m'interrompre, je dis intérieurement « Ok Seigneur, pourquoi cette interruption ?» Ou si je vais à un rendez-vous, un conseil, je dis « Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi ? Qu'est-ce que tu attends de moi dans cette rencontre ?» Posez la question pour chaque défi, chaque chose que vous entreprenez dans votre journée. Dites « Seigneur, Père, quelle est ta pensée pour moi? Qu'est-ce que tu attends de moi ou pour quelqu'un d'autre dans cette situation? » Maintenant, nous parlons de vie stratégique. C'est une révolution et c'est de cette manière que Dieu vit. Oui, c'est de cette manière que Dieu vit. Père, où es-tu dans chaque situation? Il y a toute une série de questions à se poser lorsqu'on commence à penser de cette manière-là. Je veux vous encourager à relire vos notes. Au fond, ces notes, on pourrait les résumer en nous reposant la question suivante. Dieu, où es-tu? Parce que je sais que tu es dans ma vie. Tu connais le nombre de mes cheveux. Tu as choisi que je sois en vie. Tu as choisi mon sexe, l'ethnie dans laquelle je suis venue au monde et celle dans laquelle je vis. Tu connais mes dons, tu connais mes faiblesses. Tu es complètement dans ma vie. Comment veux-tu que je grandisse aujourd'hui? Je vous affirme que si vous vous levez tous les matins avec cette mentalité-là, votre vie va être transformée. Je finis en disant, s'il vous plaît, osez vous mettre en colère contre l'ennemi. Dites-lui de retourner en enfer. Jésus, lui, est assez en colère contre l'ennemi pour l'obliger à passer l'éternité loin de lui et de ses enfants. Jésus n'est pas gentil avec l'ennemi. Nous devons arrêter d'être gentils avec l'ennemi. Ne soyez pas effrayés par lui. Il aime jouer avec la peur. Je respecte son pouvoir, mais je n'ai pas peur. Et mon attitude est la suivante. Je te rejette, je te chasse, sors de ma vie, avec tout ce que tu essayes d'amener dans ma vie, qui est censé m'apporter des blessures. Je vais faire en sorte que toi, ennemi, tu regrettes d'avoir fait cela dans ma vie. Quelle que soit la chose que l'ennemi a amenée dans votre vie, chose qui vous a blessé, faites-le lui payer. C'est pour cela que Dieu a permis que cette situation et ces blessures vous arrivent, que vous soyez assez motivé pour lui faire payer le prix. Si tu as été abusé, peut-être Dieu va-t-il permettre que tu puisses, par ton vécu, servir d'autres personnes qui ont été abusées. Aujourd'hui, quelle que soit la blessure que tu as reçue, renvoie-la, rends-la à l'ennemi. Je crois que si Satan avait su l'effet qu'aurait la mort de Jésus-Christ sur la croix, s'il avait su ce qu'elle allait produire, alors il se serait arrangé pour qu'il n'y ait aucun arbre, aucune branche de bois à 50 km à la ronde. Il y a certaines choses que l'ennemi a faites pour me blesser. Je sais déjà aujourd'hui qu'il en regrette certaines d'entre elles. Qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie? Comment t'a-t-il blessé? Dans quel domaine? Comment as-tu agi, réagi? Vas-tu dorénavant agir de manière à ce qu'il le regrette? Que Dieu vienne à notre aide. Amen.